l'heure philo. L'heure philo jusqu'à 21h, donc sur France Inter, Karen Deux à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Arnaud Caillet à la console.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
C'est une crise totale, ça a touché l'individu dans ce qu'il a de plus personnel, étant confronté à un risque de mort assez mystérieux, son mode de vie changeant totalement, puisque de la vie extravertie, il passait à la vie introvertie dans l'appartement. Et ce qui touchait l'individu touchait évidemment sa famille, touchait la société, touchait la France, touchait l'Europe, touchait l'univers.
Vous aurez peut-être reconnu notre cher Edgar Morin. Tout le monde a quelque chose à dire au sujet du Covid. Laetitia Tlanidio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez dirigé un livre paru aux éditions Albin Michel intitulé « Les spiritualités en temps de crise ». Alors d'abord un mot sur vous, vous êtes anthropologue, vous enseignez à l'Université Columbia New York, vous enseignez aussi à l'Université de Paris, vous êtes une spécialiste des crises sanitaires et vous avez créé l'Institut Covid-19 Ad Memoriam. Vous nous direz en quoi ça consiste, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, quel est le principe de ce livre, Les spiritualités en temps de pandémie ?
Parler d'un principe, c'est peut-être un peu compliqué, mais je peux vous raconter l'origine ou la genèse de ce livre, si vous voulez. On a démarré en tant que groupe, c'est l'histoire d'une aventure collective, c'est l'histoire d'un groupe avant tout. On a démarré avant même le premier confinement, puisque si vous vous souvenez, en France, mais aussi dans beaucoup de pays du monde, la métaphore de la guerre a dominé pendant un temps. Une guerre où la science en particulier aurait été un outil principal, censé éclairer les combats, et censé, pour ça, produire un modèle explicatif unique de cette pandémie qui nous est tous tombés dessus au même moment, au niveau international. Or, on l'a vu, on le savait déjà, on l'a vu au cours de cette crise, la science, avec un grand S, est très hétérogène. Les controverses sont multiples, l'incertitude était majeure au départ, sur certains points l'est encore aujourd'hui. Donc les modèles explicatifs scientifiques sont hétérogènes, nombreux et parfois en lutte ou en contradiction. Mais surtout, en temps de pandémie, en temps de crise politique, sanitaire, en temps de catastrophe naturelle, en temps d'infortune majeure, les gens, les populations, vous et moi, nous tous, on se tourne non seulement vers la science pour chercher des modèles explicatifs, mais on se tourne vers plein d'autres sources, dont la pensée religieuse. Et donc il m'a semblé évident, avant même le premier confinement, qu'il fallait absolument que les religieux, que les leaders religieux, mais aussi que un certain nombre d'intellectuels ancrés dans chaque grande communauté religieuse, participent à cette réflexion sur la crise qui nous touchait.
Donc c'est un peu une réflexion interculte. Ça va, pour que les auditeurs comprennent, il y a 14 personnes, plus vous.
Absolument.
C'est sous votre direction. Ça va du président des évêques de France au président de la Fédération protestante de France, en passant par le grand rabbin de France, l'ancien président du Conseil français du culte musulman ou le président de l'Union bouddhiste de France.
Absolument. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous appelés sur leur portable, un dimanche, alors après-midi quand même, en leur proposant justement de monter ce groupe de réflexion totalement informel au départ, encore une fois avant même le premier confinement. Et on a démarré comme ça, c'est-à-dire avec l'ensemble des grandes communautés religieuses, vous l'avez dit, Eric de Moulin-Beaufort, Raïm Corsia, Mohamed Moussaoui.
Il y a une femme.
Il y a une femme, Véronique Margrot,
ouais.
La présidente.
Elle est dominicaine.
Elle est dominicaine et c'est la présidente de la COREF. Mais donc il y a des catholiques, les protestants, les orthodoxes, le métropolite orthodoxe également, les juifs, les musulmans, mais aussi les bouddhistes, avec Olivier Wangen, le président de l'Union bouddhiste.
Il y a des gens qui vont bondir en disant que le bouddhisme n'est pas une religion. Non mais je vous le dis simplement,
absolument.
C'est alors, pour qu'on ne se fasse pas gronder.
Le choix qui a été fait, que j'ai fait, que j'assume, que nous assumons ensuite en tant que groupe, a été de se tourner vers tous ceux qui sont dans un dialogue avec la République, dans un dialogue avec l'État, et donc les représentants des grandes communautés religieuses qui travaillent de concert en temps normal, en dehors même des crises de type pandémique. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, le groupe a été constitué des grands leaders religieux.
Mais, c'est pour
mais
ça
j'ai aussi
oui,
élargi
oui.
ce groupe très
oui,
vite
oui, bien sûr.
À un second cercle, mmh. De manière à ne pas se limiter aux institutionnels, d'une certaine manière, et aux leaders religieux, mais de l'élargir à un second cercle mmh. constitué d'intellectuels
l'intellectuel, oui.
ancrés dans chaque grande communauté religieuse. Et donc, on a, dans un premier temps, la première année, agi en silence sur un certain nombre de sujets. L'idée n'était pas de faire un livre au départ, pas du tout. L'idée, c'était de s'écouter et puis d'être actif. Alors, on a fait toutes sortes de choses. Je peux vous donner deux, trois exemples. On a beaucoup réagi, on a beaucoup poussé, on a gagné, par exemple, sur le fait que les housses mortuaires soient réouvertes. De manière à permettre aux familles de voir le corps des défunts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, voilà, c'était vraiment le modèle Ebola qui était présent, oui. avec une grande peur de la contagion des corps défunts, et avec des housses mortuaires qui étaient fermées tout de suite après la mort et qui ne permettaient pas aux familles, qui en plus souvent n'avaient pas pu accompagner les mourants, oui. de même dire au revoir. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, quelque chose dont on est tous très fiers, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble, qui n'existait pas avant, qui n'existe pas au niveau international, ça a été de créer une ligne d'écoute téléphonique spirituelle interculte. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Parce que si vous vous souvenez, du jour au lendemain, tout a été fermé. Il n'était plus possible d'aller dans les églises, dans les mosquées, dans les temples, etc. Et puis surtout, ça a été fait dans la précipitation, et donc sans que des lignes téléphoniques soient organisées, sans que les numéros des uns et des autres soient disponibles. Or, on a vu une prolifération de lignes d'écoute psychologiques se mettre en place les premières semaines. Mais pourquoi médicaliser la désespérance sociale ? Pourquoi psychologiser la désespérance sociale ? Forcément, l'écoute spirituelle est tout aussi importante. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que l'ensemble des grandes communautés religieuses, et moi, donc, à ma suggestion, on a monté cette ligne d'écoute spirituelle interculte, qui a été portée par l'État, malgré la loi 1905, donc ça est aussi quelque chose qui nous a rapprochés tous. Et chaque grande communauté religieuse a mis à disposition, par envoi de ligne, des télérépondants qui n'avaient jamais été télérépondants dans leur vie, hein, mais qui étaient des prêtres, des pasteurs, des rabbins, etc.
Mais est-ce qu'il y avait un risque ou une crainte que, précisément, la spiritualité, dans ces temps agités, soit mise un peu sous cloche ? Il y avait cette peur-là, de la part des uns et des autres ?
Non, cette peur-là n'a pas dominé, non. Mais ce qui était important pour tous, c'est que dans ce moment quand même de grande peur individuelle et collective, de peur de l'incertain, de peur de la mort, de grande solitude aussi, hein, beaucoup de gens se sont retrouvés seuls chez eux pendant des semaines, seuls face à la mort des proches qu'ils n'ont pas pu accompagner, et que finalement, face à, dans cette grande solitude-là, finalement, ce qui fait notre commune humanité se brise, ou en tout cas se fissure.
Et une autre question qu'on peut se poser aussi d'emblée, c'est en quoi est-ce que la réflexion, la pensée de ces diverses personnes qui font part de leur expérience personnelle et qui parlent, j'ai envie de dire, plus en tant que qu'homme ou que femme, enfin qu'humain, que vraiment en tant que représentant d'un culte particulier, en quoi est-ce que ça peut aider, au fond, tout un chacun ? Le tout un chacun inclut évidemment les laïcs.
C'était très important pour moi, après quelques mois d'action en silence, ça a été un choix, on le dit dans le livre d'ailleurs. La première année, on n'a pas parlé de ce qu'on a fait. Les médias étaient déjà saturés de paroles. Et puis en plus, il nous semblait important de garder une grande part de modestie et d'humilité face à ce qui se passait. On était dans une incertitude totale, scientifique aussi, mais une grande incertitude. Et donc, il a paru important pour nous de ne pas en rajouter. Et par contre, après plusieurs mois, nous avons décidé de faire ce livre justement pour pouvoir témoigner de ce que nous avions vécu et de surtout ce qui nous paraissait important aujourd'hui. Et ce que vous dites, c'est-à-dire que la parole de chacun est d'une certaine manière très spécifique dans le livre, c'est quelque chose qui était important pour moi. Les textes ne sont pas des textes de représentants institutionnels.
Pas du tout, on sent beaucoup de retenue, de réserve et de grande tolérance.
Enfin. Ce sont des textes personnels.
Ouais,
et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que pour la première fois, tous ces gens-là parlent, sortent du silence, et ils le font ensemble. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, ils le font ensemble après 2 ans, et ils le font en tant qu'homme ou en tant que femme, avant même de le faire en tant que représentant de telle ou telle communauté. Et c'est d'une certaine manière un acte de confiance totale, de se livrer ensemble et de se livrer avec quelqu'un à qui ils ont fait ils ont donné une telle confiance qu'ils ne se sont pas relus les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils m'ont chacun confié leur texte sans savoir ce que les autres allaient écrire. Et en me faisant confiance jusqu'au bout, ça donne un livre où les textes sont très hétérogènes. Chacun va au bout de ce qu'il a à dire. Mais ils dialoguent entre eux. Ils dialoguent entre eux pourquoi ? Parce que, ça je tiens à le dire peut-être, c'est intéressant aussi dans la dynamique de groupe. Je les ai réunis deux fois, quand on a commencé à écrire ce livre, dans des ateliers d'écriture, de manière à ce qu'on s'écoute tous les uns les autres et que donc on retrouve cette... Les textes se font écho.
Et vous êtes ce soir, Laetitia Atlani-Duo, leur porte-parole, en quelque sorte. Vous êtes bien sûr France Inter.
J'espère ne pas les décevoir.
C'est Laure Philo, Alain Souchon et Gaëtan Roussel.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, où sont les commerces, les glucides? Et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches reste vide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, splendide. Tant de sauvés grâce à vous qui sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste, un don rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur.
C'était le 14 mars 2021, Abdinour Bidar, qui est philosophe, c'est une figure intellectuelle de l'islam libéral, membre de l'Observatoire de la laïcité et du Comité consultatif national d'éthique.
Il faut réussir à se raccrocher à quelque chose. Et c'est ce qui est très difficile dans la situation dans laquelle on est, et d'autant plus que c'est une situation qui dure, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de repères ordinaires, de repères habituels qui s'effondrent. On se retrouve très très confronté à nous-mêmes. Souvent d'ailleurs en ville, dans des appartements très petits, où la confrontation à soi-même est une contrainte terrible. Donc, d'une certaine façon, on est sommé, on est convoqué sans échappatoire à ce rendez-vous avec soi, sur le mode « mais au fait, dans cette vie de dingue que je vis tous les jours, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» Moi, je le dis depuis des années, nous vivons des existences qui n'ont pas de sens. Nous passons notre temps à travailler, à consommer, c'est-à-dire que nous passons notre temps à faire fonctionner un système qui ne nous dit rien sur nous-mêmes, qui ne nous apporte absolument rien d'essentiel. Et donc, est-ce qu'on va repasser de la situation anormale de la crise où on est, anormalité extraordinaire, à l'anormalité ordinaire de nos vies d'avant, où on cavale, sans prendre le temps, parce que le système ne nous en donne pas le luxe ou le privilège, de faire une petite pause.
Alors, Laetitia Atlanidio, un rendez-vous avec soi et l'occasion de faire le point. Est-ce que ça, c'est un peu ce qui vous a été dit de la part des uns et des autres ?
C'est un des enseignements, en effet, hein, qu'on peut tirer du livre, quelque chose qui revient dans beaucoup de nos textes. À la fois, deux choses peut-être, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. La première chose, ce qu'Olivier Abel appelle...
Olivia Bell, que nous avons reçu, que vous avez reçu il y a pas très longtemps, pour un livre sur l'humiliation, exactement.
Qui l'appelle un monde de solitude, finalement, un monde de solitude consenti. Cette pandémie nous a rappelé aussi ce monde-là que nous avons choisi, ou en tout cas dans lequel nous vivons, finalement. Un monde où chacun est seul, un monde d'indépendance nationale et individuelle, comme il le dit. Et un monde où, finalement, on a été appelé à se protéger. À se protéger individuellement en baissant les rideaux de fer, en restant chez soi, et où finalement ceux qui survivront seront ceux qui auront su se protéger individuellement, dit-il. Et il en appelle à justement le fait d'honorer l'interdépendance, le fait de reconnaître que si les liens, c'est les liens avec les autres, c'est les liens physiques, c'est les liens corporels, c'est le fait de se toucher, de s'embrasser, d'échanger, de discuter qui sont au cœur de la vie des hommes, et que parfois il faut être subversif et il faut pouvoir finalement dépasser ces règles d'autoprotection, de le principe de précaution, le modèle de biosécurité qui a été au cœur de la réponse à la gestion de la crise, pour en revenir peut-être à une vie où l'interdépendance et finalement la fragilité de nos corps, mais aussi de nos solitudes, est reconnue.
En même temps, pardonnez-moi, mais la crise, elle nous a renvoyé aussi, c'est ce que dit d'ailleurs François Claveroli, qui est donc protestant, qui est pasteur, il dit que ça renvoie à la dimension de la profondeur, de l'épaisseur humaine, de la spiritualité, précisément. D'où le pont.
Il le dit très bien, beaucoup d'autres le disent aussi dans le livre. L'idée qu'on a vécu un temps arrêté, une parenthèse, peut-être.
Que peut-être rien ne sera plus jamais comme
que
avant.
Que peut-être rien ne sera plus jamais par avant, comme avant. Mais surtout, un temps qui nous a permis peut-être de sortir de ce moment effréné dont on vient d'entendre parler, d'ailleurs, là, et de réviser nos priorités individuelles comme collectives, et peut-être de réapprendre le temps long, ce que Simone Veil disait très bien aussi, c'est-à-dire que de réapprendre que nous ne sommes jamais à l'abri du sort, à l'abri de tout ce qui peut arriver, et que finalement, c'est peut-être ça que nous devrions apprendre à ne pas oublier, en revenir à ce qui est essentiel pour nous, à ce que nous considérons comme essentiel, et à revenir à un rythme peut-être plus lent, celui qui inscrit le présent dans un passé et dans un avenir que l'on maîtrise.
Alors, il y a un de vos interlocuteurs que j'ai noté ça parce que j'ai trouvé très intéressant, c'est Denis Malvy, qui est prêtre orthodoxe et professeur de médecine aussi. Et alors, lui, il parle de deux films de Tarkovsky, Le Sacrifice, c'est un film de 1986. Tarkovsky, qui sait qu'il va mourir, c'est un peu une œuvre testamentaire, et donc il se confronte à la question de la vie et de la mort. Et il parle aussi d'un autre film de Chris Marker, La Jetée, où là, on voit qu'un homme, même s'il est au fond du trou, il peut toujours avoir une lumière et une joie.
Denis Malvy, il le dit très bien dans son texte. En effet, c'est à la fois un professeur de maladies infectieuses et un prêtre orthodoxe qui nous rappelle dans son texte à quel point il faut peut-être réapprendre aussi à accepter la maladie, la fragilité, la finitude et la mort. Il prend l'exemple de ces films pour nous rappeler ce que quelqu'un d'autre, un dominicain, Bruno Cadoré, appelle aussi le besoin finalement de réapprendre à accompagner nos proches, y compris dans la mort, à réapprendre finalement à bénir ceux qui vont nous suivre, finalement se réjouir que ceux qui restent puissent profiter d'une vie que l'on quitte de manière apaisée. Et donc, Denis Malvy a cette capacité-là de parler en tant que professeur de médecine, spécialiste de maladies infectieuses, et prêtre orthodoxe en revisitant les textes religieux chrétiens en particulier, mais aussi en allant puiser dans toute une série d'autres références, les films que vous mentionnez, la littérature, et ça donne un exemple assez intéressant des textes de ce livre, où, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens se livrent. Ils se livrent assez intimement, finalement. Ils sont pas du tout dans une posture académique, intellectuelle ou même religieuse, mais ils se livrent au plus profond d'eux-mêmes. C'est peut-être ce qui fait la spécificité de ce bouquin.
Alors, au nombre, justement, de ceux qui vous ont entouré et qui ont réfléchi, il y a Éric de Moulin-Beaufort, qui est archevêque de Reims et des Ardennes, qui est président de la Conférence des évêques de France. On l'écoute.
Mais la crise sanitaire nous met un peu au défi de vivre vraiment dans la bonté, d'être attentif aux autres. D'une part parce qu'on ne peut pas avoir tous les gestes ordinaires puisqu'on est obligé de rester à distance. Donc tout ce qui nous permet habituellement de marquer notre attention aux autres, notre affection et notre bonté, disons tout cela, est un peu empêché. Et en même temps, il y en a plus besoin que jamais parce qu'il y a des gens malades, parce qu'il y a des gens seuls, parce qu'il y a des gens en situation de précarité. Donc il nous faut faire preuve d'imagination et de créativité. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est plutôt passé, notamment dans le premier confinement. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de belles initiatives, soit des initiatives visibles, soit des choses très discrètes, entre amis, entre voisins, entre paroissiens, pour ce qui nous concerne. Beaucoup de gens ont su prendre des nouvelles les uns des autres, veiller les uns sur les autres, faire des courses d'une personne âgée, et tout cela continue. Donc il y a de belles réserves de bonté du moment qu'on la nourrit, qu'on l'entretient et qu'on la choisit. Et les fidèles ont exprimé le fait que nous ne sommes pas que des producteurs, nous ne sommes pas que des consommateurs, nous sommes aussi des êtres appelés à vivre dans une certaine transcendance, à vivre dans une certaine ouverture au mystère de Dieu, et que c'est pas l'État ne peut pas nous en empêcher.
Alors ça rejoint un peu ce que Abdennour Bidar disait tout à l'heure avec ses mots, mais plus que jamais le besoin de manifester notre bonté avec ce désir de veiller au fond les uns sur les autres, Laetitia Tlanillo.
Oui, c'est aussi quelque chose qui ressort profondément, ce que François Claveroli appelle une exigence de fraternité. Éric de Moulin-Beaufort le dit très bien dans son texte, il dit « Le courage n'est pas le contraire de la peur,
absolument.
Le vrai courage, c'est celui d'aider autrui à vivre et à survivre. » Alors, comment est-ce qu'on définit la fraternité dans ce livre? Une fraternité qui se traduit par des mouvements de solidarité multiples, on le rappelle, envers les plus pauvres, envers les plus vulnérables, envers les plus fragiles, envers ceux qui ont été durement touchés par la crise économique et également pendant cette crise, mais, et là c'est presque plus intéressant encore, une fraternité qui rappelle ce que disait Lévinas à propos de la mort en particulier. L'idée que finalement il y aurait un principe de substitution et que face à la mort, face à la peur de la mort que mentionne Éric de Moulin-Beaufort, eh bien, ce qui serait exigé de nous, c'est un mouvement d'humanité envers autrui qui va bien au-delà de la bienveillance, qui va bien au-delà de la solidarité, mais qui finalement nous permet, dans cette brèche d'humanité qui est ouverte par la peur de l'incertitude, par la peur de la crise, par la peur de l'humanité, de la mort, de retrouver en nous une part d'humanité qui va passer, dans un deuxième temps, par des actes de fraternité. Et c'est ce point-là sur lequel reviennent quasiment tous les auteurs, mais en revisitant des textes religieux très divers. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant.
Ce qui a frappé aussi les uns et les autres, et notamment Michel-David Virville, qui est directeur honoraire du Collège des Bernardins, il dit que c'est qu'on a réagi au fond en temps réel. Ce qui nous a poussé tous à mettre le doigt finalement sur des manques, que ce soit des manques économiques, des manques politiques, des manques spirituels, mais ce qui a aussi permis de voir à quel point la démocratie avait des vertus. Parce que ça n'a pas été le cas dans tous les pays.
Absolument. Alors, on s'est intéressé ici, ensemble, dans ce livre, à la situation française. Il faudra, dans un deuxième temps, et beaucoup s'y attellent déjà, produire des analyses comparatives. On est encore en pleine pandémie.
Bien sûr.
Et pour l'instant, il est compliqué de se livrer à ce type de comparaison. Mais Michel de Virville le dit très bien, il s'est agi aussi dans l'immédiateté, d'essayer de savoir ce qui est essentiel pour nous, il le dit très bien, et d'y répondre. Mais d'y répondre avec une ambition peut-être qui dépasse la simple gestion de crise. Là, j'aimerais rappeler ce qui écrit très bien Véronique Magron, dont on parlait tout à l'heure. Elle dit, nous devons être des réparateurs de brèches. Alors, elle relie Ricoeur, bien sûr, mais elle relie aussi les évangiles. Et elle dit, mais nous ne devons pas être de simples petits arpenteurs de brèche, je la cite. Elle nous appelle à être des bâtisseurs de fraternité. Et dans cet élan, il s'agit aussi de commencer à préparer l'après-pandémie et de ne pas oublier finalement cette exigence de fraternité dont on parlait tout à l'heure.
À propos de Paul Ricoeur, d'ailleurs, il est cité par Sadek Belousif, qui est président de l'Association pour l'Islam du XXIe siècle, qui est aussi professeur de médecine à la Sorbonne et à l'hôpital Avicenne, et qui cite Paul Ricoeur, « Dieu est tout puissant, Dieu est absolument bon, pourtant le mal existe ». On a tout dit avec ça. C'est aussi la première fois que l'humanité a rencontré une épidémie, alors que les moyens de connexion, de communication entre nous n'ont jamais été aussi puissants. Et là, vous parliez d'Olivier Abel tout à l'heure. Il le rappelle, ça, Olivier Abel.
Alors, ils le rappellent tous, et des gens comme par exemple Raïm Korsia rappellent aussi à quel point finalement le basculement vers le numérique a permis aussi de faire des choses extraordinaires.
Qu'on n'aurait jamais pu faire sans ça, évidemment.
Alors, on n'a fait qu'approfondir un mouvement qui était déjà là avant la pandémie, mais qui a permis de maintenir des liens et qui a permis parfois d'être extraordinairement créatif. Mais ce que dit Raïm Korsia aussi très bien, c'est à quel point il a été aussi extrêmement difficile d'agir et de prendre des décisions pour les autres, en particulier dans ce contexte d'incertitude majeure, en particulier des premières semaines et des premiers mois. Et que tenir le fil, finalement, de la protection de la vie, mais celui aussi de la nécessaire protection de ce qui fait notre humanité, a été un des enjeux principaux, en particulier lors du premier confinement. Et là, le Zoom ne répond pas à ça.
Delphine Orvillère, elle a des choses à nous dire aussi là-dessus.
Il m'a été donné au début du premier confinement d'accompagner un enterrement au téléphone. Vous voyez, j'étais chez moi et des endeuillés m'ont appelé seul au cimetière devant le cercueil de leur père. Et je leur ai murmuré les mots de la liturgie au téléphone qu'ils ont répété après moi. Et jamais de ma vie, je n'aurais imaginé vivre quelque chose comme ça. Et puis, il a fallu inventer... ou en tout cas adapter les rites, par exemple les offices de deuil qui sont si traditionnels dans toutes nos sociétés. En réalité, par exemple dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle la Shiva. Pendant 7 jours après la disparition et l'inhumation de quelqu'un, on se réunit, on se retrouve. Et il a fallu tout à coup inventer des offices par écran interposé. Et se poser la question, vraiment, que j'évoquais tout à l'heure, de comment on peut être présent dans l'absence. Certains diront, c'est... impossible de faire le deuil dans ces conditions, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Moi il me semble qu'on a inventé quelque chose parce qu'il a fallu faire avec, et les propres de l'humain, c'est vrai, c'est de faire avec. Et c'est ce dont on fait preuve aujourd'hui, et ce sur quoi il va falloir encore et encore réfléchir. Qu'est-ce que ça change à notre façon d'être homme, de pouvoir trouver comment... être là dans l'absence.
Delphine Orvillère, dont je rappelle qu'elle est rabbin, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez d'Aïm Orsia, qui, je rappelle, est grand rabbin de France et membre de l'Institut. C'est exactement la même chose. Effectivement, on accompagne un enterrement par téléphone, des bar mitzvahs qui ont lieu par Zoom. Enfin bon, et en même temps, la citation du Talmud, en cas d'épidémie, restez chez vous.
C'est vraiment, ça a été vrai de tout, pour tous en fait. Maintenant, un des enjeux, c'est aussi de pouvoir reprendre le fil de la vie et de pouvoir finalement participer à nouveau à un certain nombre de cérémonies et de pouvoir retrouver les autres. Alors, qu'allons-nous garder de ce que nous avons peut-être appris, inventé, fabriqué de nouveau à cette période-là, c'est un des grands enjeux de la pré-crise là.
Alors, est-ce que ça peut revenir à son état initial? Quand on a vu que les rassemblements ont quand même été maintenus, même si les églises étaient vides, les lieux de culte, les lieux de culte étaient vides. Les religions, et ça, ils le disent tous, au fond, les religions ont fait ce qu'elles avaient à faire pendant ce temps-là. Le devoir a été accompli. Donc maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on fait après? Mais est-ce qu'il faut que ce soit si différent que ce qu'on a fait avant?
Alors là, justement, le livre participe de cette réflexion-là en disant, on s'est posé la question de la date de publication. Il y a un an, c'était trop tôt. Fallait-il attendre encore 2-3 ans? de manière à produire une réflexion encore plus longue qui puisse répondre à ce type de
questions. Là, c'est une réflexion un peu à chaud.
On a fait le choix d'une réflexion à chaud qui lance le débat. Il s'agira bien évidemment de pouvoir revenir sur un certain nombre de sujets dont les questions que vous posez aujourd'hui. Il y a quand même déjà des choses qui sortent là et qu'il va s'agir très certainement de réfléchir plus avant, en particulier sur la question qu'on mentionnait tout à l'heure, celle de cette fraternité, de cette exigence de fraternité finalement qui s'est imposée à nous. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça saute aux yeux quand on lit les textes, cette exigence de fraternité, elle est tout autant religieuse que républicaine pour un certain nombre d'auteurs. Elle est en particulier définie de manière différente chez les auteurs chrétiens, que chez, par exemple, des gens comme Chems El Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, ou Mohamed Moussaoui, du Conseil National du Culte Musulman, ou Raïm Korsia, dont on parlait, ou Dan Arbib. Pour les cultes minoritaires, les auteurs issus des cultes minoritaires dans ce livre, cette exigence de fraternité, elle est, on l'a dit, religieuse, mais aussi républicaine, et républicaine, mais républicaine pas dans le même sens, dans leur texte. Chems El Hafiz, par exemple, ou Mohamed Moussaoui, reviennent sur ce qui est pour eux, qu'il s'agira de questionner d'ailleurs, qui est pour eux une certaine exemplarité des musulmans de France vis-à-vis des consignes des autorités sanitaires. Et ils reviennent sur cette exemplarité et ils reviennent sur la nécessité pour la République de reconnaître cette exemplarité. Et donc, ils reviennent sur l'idée que finalement, la pandémie aurait été un test de citoyenneté. Ils le disent l'un et l'autre de manière très forte dans leur texte. C'est intéressant de voir que c'est ça qu'ils veulent mettre en avant.
Sachant que les gens qui, par exemple, il y a beaucoup de musulmans qui ont été confrontés, qui travaillent, à la caisse d'un supermarché, qui dans un EHPAD, qui dans un hôpital, etc., ont été vraiment ça fait partie à la fois. Ils étaient en première ligne et ça a fait partie de ces professions tellement indispensables.
Les invisibles, comme on les a beaucoup appelés lors de la première année. Absolument. Et justement, Chems El Hafiz nous dit, juste sur ce bateau pris dans la tempête, je le cite, « Durant l'épreuve historique qu'a représenté la pandémie de Covid-19, la majorité des musulmans ont fait corps avec la France. Ils ne furent ni plus ni moins des Français comme les autres. Et c'est dans ces moments de vérité que la République reconnaît les siens, dit-il. » Et donc, il appelle cette même République à ne pas l'oublier. Donc, on a là véritablement un message qui est envoyé par ces auteurs, qui les distingue finalement des autres. Du côté de Raïm Korsia et de Dan Arbib, cette expérience commune est également mentionnée, mais différemment. Et encore une fois, c'est très intéressant de voir ce qu'ils soulignent en avant, puisqu'ils disent finalement, nous avons vécu cette pandémie, les premiers mois en particulier, comme les autres Français. Ce fut une expérience presque semblable, dit Dan Arbib. Semblable les premiers temps, et puis, mais peut-être plus autant aujourd'hui, disent-ils, avec en particulier le fameux « qui » dans certaines des manifestations ou sur les réseaux sociaux, ou avec l'étoile jaune portée lors de certaines manifestations antifax. Et disent-ils, est-ce qu'on voit là revenir finalement le spectre de certains discours accusatoires en temps de pandémie qui rappellent bien évidemment des temps sombres, en particulier ce qu'on a tous en tête, qui a marqué la société française et plus largement la société européenne, qui est un épisode de la peste noire en Europe, avec des accusations d'empoisonnement de puits, etc.
Mais on peut penser à la peste noire, on pense forcément aussi dans cette conception d'une mort collective, on pense aussi au sida, forcément.
Alors absolument, les figures du blâme, ce qu'on appelle les figures de blâme, ce que j'avais appelé dans d'autres textes auparavant les figures de blâme, mais qui sont les boucs émissaires, les coupables, que l'on désigne très souvent en temps de crise majeure, qu'elle soit pandémique, que ce soit lors de guerres ou d'autres types de catastrophes. Le fait d'identifier des coupables, et puis le fait, avec cette accusation, de proposer des modes de réparation, assez facile finalement, c'est quelque chose de classique. Et en effet, lors de l'épidémie de VIH-Sida, on a vu ces figures du blâme apparaître, en particulier les premiers temps, puisque, si vous vous souvenez, on parlait d'épidémie des 3 H, les homosexuels, les haïtiens et les héroïnomades, et que donc c'est une figure récurrente, la figure de l'étranger, que ce soit, on le disait tout à l'heure, via certains discours antisémites, ce que certains ont appelé aussi à l'époque, la gay plague, en parlant d'épidémie de VIH, mais que ce soit aussi la figure des pauvres, qu'on retrouve très souvent, ne serait-ce qu'encore récemment, au début du XXe siècle, lors de, par exemple, d'une occurrence de polio à New York, où un quartier où vivraient les immigrants de l'époque les plus pauvres, qui étaient des immigrants italiens, a été bouclé, alors même que d'autres quartiers étaient beaucoup moins touchés par la polio. Mais évidemment, la figure du pauvre est régulièrement convoquée lors de crises majeures, et en particulier épidémiques. La figure de l'étranger, la figure du pauvre, la figure des élites aussi, c'est quelque chose de tout à fait récurrent. On le voit alors avec Covid-19, on l'a vu à l'heure d'Ebola, on le voit régulièrement, avec aussi des notables, des responsables qui sont accusés de profiter. Qui sont accusés de se faire de l'argent ou autre. Hein. C'est
tout
aussi
ce qui
des
peut
figures
simplifier aussi et convoquer d'une certaine manière.
D'une certaine manière, c'est une façon simpliste de donner sens au malheur et à l'infortune et de proposer des outils de réparation tout aussi simples. Et donc ces accusations-là, ces figures de bouc émissaire, elles sont récurrentes dans l'histoire des épidémies. Fort heureusement, lors de l'épidémie de Covid-19 en France, ce n'a pas été essentiel. C'était une des questions qu'on se posait au départ de cette aventure collective dans le bouquin. Et peut-être, ce dialogue a permis aussi que ces figures ne soient pas aussi prégnantes qu'elles auraient pu l'être.
Laetitia Atlanidio, vous êtes ce soir donc notre invitée jusqu'à 21h. Vous êtes, je le rappelle, anthropologue et vous avez dirigé cet ouvrage, Les spiritualités en temps de pandémie. Karen Dalton sur France Inter, Little Bit of Rain.
If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine. Just a little bit of rain. If you should look back, try to forget all the bad times, lonely, blue, and sad.
Martin sur France Inter.
Laetitia Atlani-Duo, on a parlé précis tout à l'heure de Paul Ricoeur, d'Emmanuel Lévinas. Il y a pas que, donc c'est bien pour montrer qu'il n'y a pas que des textes religieux sur lesquels s'appuient les uns et les autres. Et il y a aussi un texte de Saint-Exupéry qui revient à plusieurs reprises. Saint-Exupéry revient à plusieurs reprises, cité par plusieurs personnes. Et il y a un texte sur la fraternité qui est magnifique. Vous voulez bien nous le lire ?
Absolument. C'est Sadek Belousif qui le mentionne. Mais en effet, Saint-Exupéry revient chez les uns et les autres, tout comme Ricoeur, tout comme Lévinas, tout comme les grands textes religieux, tout comme certains films, vous le mentionnez, c'est aussi ce qui fait le sel de ce livre. Alors je vous lis les mots de Saint-Exupéry, 1939. « Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. On veut confondre de tels hommes avec des toréadors ou des joueurs. On vante leur mépris de la mort, mais je me moque bien du mépris de la mort. S'il ne tire pas ses racines d'une responsabilité acceptée, il n'est que signe de pauvreté ou d'excès de jeunesse.
On a envie de faire silence après ça. Il faut aussi, et ça c'est Dan Harbib, je crois qu'il le dit, donc spécialiste de philosophie moderne et d'études juives, qui est professeur à Normale Sup, qu'il faut accepter à un moment donné qu'un événement puisse être absurde et dénué de sens, au lieu de vouloir toujours apporter des explications à tout.
C'est vraiment quelque chose qui ressort de tous les textes également, cette position de modestie et d'humilité. Il ne s'agit pas pour les uns et les autres, de tenter de donner sens à l'événement dans ce livre-là. Il ne s'agit pas de prétendre avoir tout compris, avoir tout résolu, et partager les leçons qu'ils auraient pu tirer d'une telle expérience. Il s'agit au contraire de montrer que finalement, ce qui nous a troublés, ce qui nous a décalés lors de cette pandémie, il ne faut pas attendre d'autrui, y compris des textes religieux, y compris des grandes références, y compris finalement des grandes traditions, de venir nous donner des clés qui finalement auraient qui serait la solution finale. Le terme n'est peut-être pas très bien choisi. Mais au contraire, qu'il s'agit de chercher en nous des réponses à ce qui nous a perturbés. Plus clairement encore, le texte d'Alain Cordier revient sur cette idée que, il le dit très bien en relisant Lévinas, l'homme couché oblige l'homme debout. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il nous dit, mais finalement, c'est le bon
samaritain, aime ton prochain,
absolument.
C'est ce qui te fait toi-même.
Mais il reprend Lévinas, là, en fait, totalement. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que finalement, cette pandémie, c'est pas que des statistiques, ce ne sont pas que un nombre de morts, un nombre de lits de réa, etc. C'est finalement des drames individuels collectifs, et que finalement, cette exigence de fraternité dont on parlait tout à l'heure, elle va, on le disait, bien au-delà de la simple, finalement, du simple engagement envers les autres. C'est reconnaître que finalement, ce qui fait notre commune humanité est la réponse à ce qui nous trouble, est la réponse à ce qui nous déchire lors des crises telles qu'on a pu les vivre. Et donc ce ne sont pas dans telle ou telle communauté religieuse, dans tel ou tel texte fondateur qu'on va trouver des réponses à ce questionnement, mais, et Hilsum le disait très bien, c'est finalement dans notre capacité à savoir entendre le silence de Dieu.
Alors Alain Cordier cite Elie Wiesel, justement au sujet du silence de Dieu. Le problème du silence de Dieu, disait Elie Wiesel, m'a préoccupé depuis mon enfance. Et Elie Wiesel a accepté le silence des hommes, mais pas celui de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui se sont révoltés ? Et est-ce qu'il y en a qui, parmi ceux que vous avez donc interviewés, parce que vous ne les avez pas interviewés, mais qui vous ont apporté leur travail et leur réflexion, est-ce qu'il y en a qui ont été ébranlés, en quelque sorte, dans leur foi ?
Ils ont été ébranlés et ils le disent. Et ça, justement, c'est quelque chose qui me touche énormément. Mais tous, finalement, reviennent à une idée partagée par, en particulier, par ce superbe texte d'Elie Hilsum, donc que je mentionnais tout à l'heure, et que je vous propose juste de citer. Deux minutes. Elle écrivait dans son journal de juillet 42, 11 juillet 42 précisément, elle disait « Si Dieu cesse de m'aider, Ce sera à moi d'aider Dieu. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas s'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est vraiment ce qui ressort de l'ensemble de nos textes. Et encore une fois, venant de cultures, de références, de traditions multiples, et je tiens à le dire, je suis moi-même agnostique, ils le savent, ils le respectent, et c'est peut-être ça aussi qui a permis ce dialogue.
Vient un moment, Laetitia Attanidio, vient un moment où, où la branche de l'Amandier refleurit.
On verra. Rendez-vous dans 2 ans.
C'est Denis Malvy qui en parle. Hein. Prof de prêtre orthodoxe, je rappelle, professeur de médecine et d'éthique, professeur d'éthique et de bioéthique. C'est celui qui parle des films de Tarkovsky et de Chris Marker.
Et Denis Malvy dit... Bon, Denis Malvy... Alors, il est avant tout prêtre orthodoxe, on le disait tout à l'heure. Hein. Et ce qu'il rappelle aussi très bien, c'est à quel point, je le disais tout à l'heure, pour lui... Une des clés, c'est d'accepter la maladie, d'accepter la finitude, d'accepter la détresse et la mort. Et il le dit avec des mots de médecin qui soigne, il le dit avec des mots de prêtre qui accompagne dans la mort. Et c'est peut-être ce double discours-là, chez lui, qui me touche le plus.
Pourquoi donc avez-vous créé cet institut Covid-19 ad memoriam dont je parlais en début d'émission, donc qui a été créé sous l'égide de l'OMS, qui est une sorte de, si j'ai bien compris, de lieu de mémoire des événements, c'est ça?
Oui, l'idée en fait de la création de cet institut, il y a 2 ans maintenant, c'était de collecter, archiver et analyser des traces, ordinaires comme extraordinaires, de la pandémie dans la société française. Et on le fait, on a lancé un site, une app, qui s'appelle histoiredecrise.fr, sur lequel on appelle tout à chacun, les citoyens français, à déposer leurs traces et leurs mémoires de la pandémie sous forme de textes, de photos, de vidéos, de musique. Et on a un principe de transparence qui est fondamental à l'Institut Covid-19 ad memoriam, puisqu'on peut consulter l'ensemble des témoignages qui sont postés par les uns et par les autres. Pourquoi ? Parce que l'idée n'est pas uniquement de faire un travail de chercheur sur ces témoignages, mais de pouvoir aussi donner à tout le monde accès à l'expérience des autres. Il s'agira de tirer un bilan de ce qui nous est arrivé, on le dit maintenant depuis 50 minutes, et ce bilan-là, il va dépasser la question des spiritualités. Ça va être un bilan sur ce qu'on a tous vécu. Et il nous paraissait très important que nous ayons accès non seulement à la masse d'informations produites par les médias, produites maintenant par les enquêtes parlementaires, sénatoriales, etc., produites aussi par la justice, puisqu'il y a énormément d'enquêtes en cours, mais que nous ayons accès également aux expériences des uns et des autres et de la donnée brute. Et que les chercheurs, mais également tout un chacun, puissent tirer un bilan de ce qu'on a vécu, parce que dans les 30 troublés que l'on vit déjà et que l'on risque de vivre dans les mois et les années à venir, la question, elle est sociétale, elle est politique, et il faut que l'on puisse, au-delà de nos expériences intimes et personnelles, prendre position et choisir, en tant que citoyen, ce que l'on veut pour le monde de demain. Et ça participe, c'est une pierre, une petite pierre, mais qui participe, comme ce livre, on l'espère.
Des traces et des mots, c'est aussi ce qui nous fait humains, non ?
Absolument.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure de lignes téléphoniques, est-ce que ces lignes sont toujours ouvertes ? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez les fermer ou le sont-elles déjà ?
Elles sont toujours ouvertes. Elles ont été ouvertes lors du premier confinement. Elles ont été fermées à la fin du premier confinement puisque les lieux de culte ont réouvert et que finalement, chaque lieu de culte a pu organiser le fait que lors des séquences de confinement suivantes, des lignes télé, les numéros, les numéros de portable, les numéros fixes puissent être transférés. Et donc, cette ligne d'écoute spirituelle a été fermée à la fin du premier confinement. Une autre qui a été ouverte puis fermée aussi lors de la fin du premier confinement a été une ligne d'écoute spirituelle à destination des prisonniers que nous avons créée également.
Puis des aumôniers de prison, c'est ça ?
Voilà, de manière à permettre aux prisonniers de parler aux aumôniers de prison. Puisque les prisons, lors du premier confinement, c'était un peu la double peine, hein, l'enfermement et l'absence des visites des familles. Et donc on a créé non seulement cette ligne d'écoute spirituelle interculte, ouverte à tous, mais aussi une ligne téléphonique permettant aux prisonniers de parler aux aumôniers de prison. Je le disais, ça a été fermé lors du la fin du premier confinement. C'est tout à fait le genre d'exercice dont on voulait parler dans ce livre, parce que dans les crises qui peuvent peut-être advenir dans les mois et les années à venir, on n'espère pas, elles ne seront pas forcément sanitaires, ce type d'exercice de fraternité au sens large et non plus et pratique et concrète et réaliste et non pas uniquement théorique. On parle pas uniquement de Ricoeur et des Lévinas. On monte une ligne téléphonique d'écoute spirituelle interculte. Ce type d'exercice-là, il nous paraît essentiel à garder en tête et peut-être à reproduire. Donc, des exercices de ce type à reproduire, concret, réaliste, ancré dans la pratique, des exercices intellectuels comme ce livre aussi, qui, je tiens à le rappeler, rassemble pour la première fois l'ensemble des grandes communautés religieuses d'un pays, qui parle de ce qu'ils ont fait en silence, ce qu'on a fait en silence, dans la tempête, mais en silence, et qui, 2 ans après, revient avec des textes à la fois personnels et relativement poussés, intellectuellement, quand même. Mais ils le font ensemble, c'est-à-dire ils sortent du silence ensemble pour la première fois. Et ça, c'est tout à fait assez extraordinaire, en fait. Il n'y a pas d'autre exercice de ce type en pleine pandémie.
Et si on se disait qu'à eux aussi, ça a fait du bien ?
Faut leur demander.
Non, mais franchement, ils sont humains.
En tout cas, je ne les ai pas contraints. Donc
Alors, pour finir, si vous voulez bien, Laetitia Atlanidio, pour finir, je voudrais qu'on écoute ensemble un homme merveilleux, c'est Souleymane Bachir-Diagne. Nous aurons d'ailleurs le grand bonheur de le recevoir très bientôt, puisqu'il sera notre invité le 17 juin prochain. Il est philosophe, il est sénégalais, et il enseigne à l'Université Columbia.
La liberté religieuse, soit, mais est-ce que j'ai la liberté si je joue avec ma propre santé et peut-être ma propre vie, de jouer avec la vie et la santé de quelqu'un d'autre? Parce que je sors de ma mosquée et j'entre dans le bus et puis je peux infecter quelqu'un qui, lui, n'a pas la même foi que moi et peut-être même pas de foi du tout. Et donc, ceci nous ramène à cette responsabilité individuelle et à une tradition des religions abrahamiques. Je suis le gardien de mon frère. Et c'est cela, cette responsabilité d'abord, qui est première, je n'ai pas le droit d'infecter quelqu'un d'autre. Et donc, jouer de ma liberté, faire des démonstrations, des manifestations en disant « ma liberté », mais oui, mais ma liberté, comme on dit, s'arrête là où commence celle des autres, et je n'ai pas le droit de contaminer quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est joli de se quitter momentanément là-dessus avec Souleymane Bachir-Diagne. Merci beaucoup Laetitia Atlanidio. Je rappelle donc le livre qui est paru sous votre direction, « Les spiritualités en temps de pandémie », c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci à vous.